Ce soir, nous allons parler de deux, d'un problème essentiellement, c'est-à-dire la fin des sources d'énergie fossile. Le sujet fait partie d'une série de 5 conférences que vous voyez articulées là. Évidemment, on ne peut pas tout traiter, donc j'ai supprimé le CO2 et l'effet de serre du titre. Et ce soir, on parlera un peu à titre d'introduction de la population mondiale et de l'augmentation de demande en énergie, et puis on s'occupera plus particulièrement du pétrole et du gaz naturel. Pour ce qui concerne le pétrole, on regardera combien d'années des ressources nous restent, qu'est-ce qui va se passer quand il commencera à être assez rapidement remplacé par le charbon, et puis quelques facteurs qui affectent actuellement les prix du pétrole et les risques politiques qui vont s'ensuivre. Alors, la population mondiale, en ce moment, je crois qu'on est 6,6 ou 6,7 milliards de personnes, en augmentation de 1,5% par année. Ça semble pas grand-chose, mais en réalité, ça fait 260 000 personnes de plus chaque jour. Et quand on sait, par exemple, que chaque Français, comme chaque Européen, dispose d'une puissance électrique d'un kilowatt, pour ses besoins, si vous voulez, 1 million de personnes en 4 jours, ça veut dire une centrale nucléaire d'un gigawatt. Donc, il faudrait construire une centrale nucléaire tous les 4 jours pour satisfaire tout le monde, chose qui est carrément impossible. Heureusement, pas tous consomment comme nous, on va le voir. 1,5% de plus par année, ce n'est pas une croissance linéaire, c'est une croissance qu'on appelle exponentielle. C'est-à-dire, c'est comme vos intérêts à la banque, on vous donne en même temps 2%, mais c'est 2% sur un chiffre qui augmente au fur et à mesure, et donc ça ne suit pas une ligne droite, ça suit un exponentiel. Que voici. Là, il y a un petit truc, hein, je vous le dis tout de suite, on a comprimé l'histoire de l'humanité de 10 000 ans en horizontal pour voir que finalement la population mondiale a commencé à exploser dans les années 30 quand on a appris à soigner les épidémies, les maladies et même, si vous voulez, le manque d'alimentation qui en tout cas affectait l'Europe périodiquement, etc. Celle-ci est une projection de l'ONU que tout le monde prend pour bonne, mais moi je ne la prends pas pour bonne pour autant, parce que s'il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est justement les prévisions, en particulier dans ce genre de domaine. L'idée de l'ONU, là-dessous, est que vers 2070, si vous voulez, les pays sous-développés se seront développés, et donc les femmes auront appris à limiter les naissances, comme on le fait déjà, si vous voulez, dans les pays riches. Ça, c'est une petite distribution de la population par nation. Et il y a une raison pour faire ça. Si vous prenez cette partie-là, disons, c'est l'Occident. Donc, il y a les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Europe, le Japon, un peu de Mexique, un peu de Russie. Vous arrivez à 1 milliard de personnes. Ça, c'est les pays industrialisés. Ensuite, nous avons des pays, deux en particulier, la Chine et l'Inde, qui ne sont pas industrialisés, mais qui sont sortis de leur léthargie, si on dit léthargie en français, et qui commencent à s'industrialiser, et donc sont devenus, du coup, demandeurs d'énergie, chose qui n'était pas avant. Tous les autres, c'est les pays pauvres. Pourquoi la population et la demande d'énergie nous posent tout à coup un problème? Jusqu'ici, il y avait les pays riches, donc 1 milliard de personnes, qui consommaient à eux seuls, tranquillement, la moitié de l'énergie mondiale. Les autres étaient pauvres, donc ils consommaient le minimum, juste de quoi survivre, et ne nous restaient pas les pieds, si vous voulez, dans le bilan global de la demande d'énergie. Dès que la Chine et l'Inde, par exemple, mais il y en aura d'autres, ont commencé à bouger, les choses ont changé, parce qu'eux demandent maintenant de l'énergie et ils en veulent, à la limite, autant que les pays riches. La filmographie américaine, si vous voulez, a diffusé dans le monde entier l'idée que tout le monde puisse vivre avec une belle maison, avec de grosses voitures, etc. Et donc, vous demandez à un Chinois ou à un Indien qu'est-ce qu'il aimerait. Il aimerait vivre comme nous. On passe maintenant à la demande globale d'énergie. Donc, là, on parle du monde entier. Et il faut introduire une unité particulière qui s'appelle la tonne équivalent pétrole. Pourquoi? Bon, d'abord, c'est pratique. C'est-à-dire qu'on ramène tout, que ce soit du charbon, du gaz, etc., on ramène tout en tonnes de pétrole. En plus, c'est une unité adéquate, si vous voulez, à la consommation d'un pays entier. Sinon, on va, si on s'exprime en kilowattheure, on va à des chiffres où on ne fait plus la différence entre 1 milliard et 10 milliards ou 100 milliards. Donc, en parlant de tonnes équivalent pétrole, la consommation en 2005 était de 10 milliards et demi de tonnes équivalent pétrole, tout pays confondu. L'augmentation de la consommation d'énergie est légèrement plus rapide que celle de la population pour les raisons qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui consommaient pas avant et qui maintenant commencent à consommer. Quant à la moyenne par personne, comme toutes les moyennes, ne veut rien dire. Parce que, vous savez, si tout le monde mange un quart de poulet par semaine, ce n'est pas pour autant que tout le monde en a. Donc, là, il y a un petit hic avec les couleurs. Mais tant pis, c'est dommage. Alors, je vais être obligé de découper. Le pétrole, si vous voulez, en gros, 36%. Le gaz naturel, 20-21%. Et le charbon, presque autant. Ensuite, il y a un peu d'hydraulique, un peu de nucléaire, c'est une petite tranche comme ça, et puis des énergies autres et renouvelables. Ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas des éoliennes, surtout pas. C'est du bois, 10% de l'humanité consomme encore du bois, et puis des déchets incinérables et un peu de vrais renouvelables, ce qu'on appelle renouvelables. Il faut savoir aussi que chaque tonne de pétrole, d'équivalent pétrole brûlé, génère 3,5 tonnes de CO2. Et donc, si on dit 10 milliards là, on tombe sur 30 milliards de tonnes de tonnes de pétrole, mais ce n'est pas de CO2, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on aurait dû voir si on avait les couleurs, c'est-à-dire que si on prend le gaz, le charbon et le pétrole ensemble, on a 80%. Ce qui veut dire que notre vie actuelle dépend à 80% des sources d'énergie qu'on appelle fossiles, on verra plus tard pourquoi, qui ne sont pas renouvelables. Bien au contraire, elles vont s'épuiser. Et c'est là tous les problèmes. Ici, on a la demande, la consommation d'énergie par pays. Alors, tous les anglo-saxons, que ce soit les États-Unis, le Canada ou l'Australie, consomment exactement le double des Européens ou des Japonais, par exemple. Bon, ils ont de grands espaces. En plus, la population du Canada et de l'Australie n'est pas très importante. Pour ce qui est des États-Unis, effectivement, ça gêne. Compte tenu que le niveau de vie en Europe est le même qu'aux États-Unis, ça vous donne tout de suite une idée de combien on peut gaspiller. Et si je vous dis, j'espère vous le commenter plus en détail après, que par exemple nous pourrions vivre tout aussi confortablement en consommant exactement la moitié, alors vous voyez que les Américains peuvent diviser par 4 et encore vivre bien. Mais personne ne bouge. Quant au sud de l'Asie, si on prend aussi les autres pays, ils consomment en moyenne 0,8 ton équivalent pétrole par habitant par an, mais la nuit, c'est qu'ils sont plusieurs milliards. Donc ça pèse lourd aussi. Voilà ce qui donne la croissance de la population d'ici, donc dans les années jusqu'ici, hein, et la demande en énergie et le CO2 émis augmente plus vite pour les raisons qu'on a dites. Donc il y a des intervenants qui pèsent plusieurs milliards et qui commencent à consommer allègrement aussi. Alors, des gens bien intentionnés se sont penchés sur l'augmentation de la demande en énergie mondiale. Et ils ont vu que si on continue comme on fait maintenant, c'est-à-dire sur la courbe bleue, d'ici 2050, donc c'est pas dans un siècle, hein, on va consommer pratiquement trois fois l'énergie qu'on consomme maintenant. Si on fait quelques efforts à détailler, hein, on peut, au lieu de consommer les triples, on peut arriver à consommer les doubles. Et si vraiment on était super efficace, on pourrait consommer une fois et demie. Pourquoi super efficace? Parce que pour les pays comme la Chine et l'Inde, il n'y a rien à faire. Nous, les Européens, et éventuellement les Américains, nous pouvons faire des efforts. Mais les autres, ils partent de tellement bas, si vous voulez, qu'on ne peut pas leur demander maintenant de faire des économies avant qu'ils aient même démarré, si vous voulez, l'industrialisation. Alors, de toute façon, ces prévisions-là valent ce que valent toutes les prévisions, parce que moi, j'affirme et je vais démontrer que de toute façon, d'ici 2030, la production d'énergie, ça c'est la population, et la demande en énergie. Et ça, c'est l'énergie disponible, toutes sources confondues. Et donc, de toute façon, on n'ira pas ni comme ça, et peut-être même pas comme ça. Si on ramène d'une façon graphique, si vous voulez, l'augmentation de la demande d'énergie, vous voyez, les Américains vont encore augmenter, les Européens aussi, mais surtout, la Chine et l'Asie vont exploser. Les pays que nous appelions pauvres jusqu'ici, eux, ils ne bougent pas tellement. Là, nous allons introduire un nouveau concept qui est celui des pics de découverte. Prenons une ressource comme le pétrole, enfouie dans le sol. On cherche activement tous les gisements, et puis quand on les aura, non pas tous trouvés, mais presque tous trouvés, si je ramène la quantité de pétrole découverte en fonction des années, forcément il y aura un pic, et forcément après il y aura une décroissance, parce que c'est une ressource finie, ce n'est pas l'eau de l'océan non plus. S'il y a vraiment un pic dans les découvertes de nouveaux gisements, ben, tôt ou tard, il y a quand même un sacré délai, mais tôt ou tard, il y aura aussi un pic dans la consommation. Ça, c'est la partie théorique. Maintenant, on va voir en pratique. Vous avez en bleu les découvertes des gisements de pétrole avec la quantité du gisement, jusqu'en 2000, ou jusqu'en 2005, si vous voulez. Et là, vous avez ce qu'on espère encore découvrir. Ça, c'est la courbe de consommation. Donc, tout ce pétrole-là, ce n'est pas, on ne l'a pas tout utilisé, que ce soit clair, on en a utilisé la moitié. Mais c'est pour vous démontrer que si maintenant je veux tracer un pic de découverte, eh bien, on l'a eu. Il a déjà passé. Et les gisements qu'on découvre maintenant, on en découvre beaucoup, parce qu'on cherche beaucoup, mais ils sont de plus en plus petits par rapport aux énormes gisements qu'on avait trouvés en Moyen-Orient dans les années 60, si vous voulez, 50-60, c'est rien du tout. Donc, si on ramène tout ça dans un graphique, voilà ce qu'on peut, cette fois, raisonnablement, ou presque raisonnablement, c'est pas tout à fait vrai, mais le pétrole conventionnel, c'est la partie en vert clair ici. Donc, il va y avoir un pic disons vers 2010 dans ces graphiques, et après il y aura des croissances. Un vert plus foncé, c'est le pétrole non conventionnel, c'est-à-dire qu'on gratte le fond de la marmite. Le gaz naturel, lui, il va aussi avoir un pic. Un peu plus tard, le pic du gaz naturel est là, hein, donc il y aura peut-être 10 ans de plus, mais après, forcément, la production va diminuer, et elle va diminuer plus vite que celle du pétrole, parce que le gisement de gaz, si vous voulez, se termine d'un coup, alors que le pétrole, on peut continuer à souffler, pomper, etc. Ici, nous avons le charbon. Donc, la consommation de charbon, c'est cette partie-là. Donc, vous voyez que d'ici 2100, il est prévu de consommer au moins le double. Le nucléaire, je dis que c'est pas vrai, mais si on compare, le nucléaire serait multiplié par 10, hein, dans ce graphique. Et quant aux énergies renouvelables, donc la géothermie qu'on n'a pas encore mis en marche, le solaire et le vent, si vous voulez, devraient être multipliés par 100 ou par 1000. En haut, vous avez la courbe de 1. En haut, en bleu, vous avez l'hydroélectrique. L'hydroélectrique, pour nous, c'est les barrages. Si vous voulez, dans les mondes industrialisés, on a pratiquement presque tout exploité. Et quant aux pays comme la Chine, etc., ils ont encore des installations en fer, mais elles sont extrêmement éloignées des centres de consommation. Donc, pour l'hydroélectrique, on va dire que si tout va bien, on multiplie par 2 la production d'électricité. Et tout en haut, qu'on ne la voit pas, c'est une courbe qui était rouge, on a la population mondiale et la demande d'énergie qui va avec. Maintenant, un petit raisonnement tout bête. Les jours où on arrive au pic du pétrole, par rapport à la demande, la production va faire comme ça, qu'est-ce qui va se passer? L'offre ne satisfaisant plus la demande, on va avoir des sursauts. En premier lieu, dans les prix, et en deuxième instance, on le verra avec les risques politiques. Il faut savoir que le pic de production a déjà été dépassé partout dans le monde, sauf en Moyen-Orient. Donc, ça a été pratiquement dépassé dans les années 70. On y reviendra. Ça, je ne vais pas le montrer maintenant. Donc, l'âge du pétrole, en tout et pour tout, durera 3 siècles. 150 ans sont déjà passés, et les 150 ans à venir, nous finirons les ressources, et après, il n'y en aura plus jamais. Ce n'est pas la peine d'espérer de trouver du pétrole sur la Lune ou ailleurs. Le pétrole étant une substance d'origine organique, ce n'est pas comme les cuivres ou l'or qu'on puisse aller les chercher sur d'autres planètes. Donc, on en parlera plus du pétrole. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'ici, le pétrole, il y en avait, mais il y en avait. Je fais mes calculs, je vous les montrerai à la fin. Il coûte encore aujourd'hui moins cher que l'eau minérale. Et donc, on n'a eu aucune raison ni motivation d'essayer d'être plus raisonnable. La nuit, c'est qu'il y a des scientifiques, il y a des politiques, etc. Eux devraient se soucier, mais ils n'en font rien, pour différentes raisons. Regardons un peu le cas de la France. Il est différent de tous les autres pays. Je pense que vous le savez. En France, l'électricité, qui compte pour 20-21% dans notre consommation d'énergie, est essentiellement d'origine nucléaire. Donc, elle ne pèse pas sur la consommation de gaz, par exemple, ou de charbon, et encore moins de pétrole, pas que. Mais, il faut voir que l'économie française, est de ce fait très axée sur le pétrole. Alors, en France, je vous avais dit tout à l'heure, comme dans tout autre pays d'Europe et au Japon, nous consommons 4 tonnes et demie d'équivalent pétrole par personne et par année. Dans cette tranche de 4 tonnes et demie, il y a 1100 watts d'électricité. Sur 4 tonnes et demie, on pourrait le transformer en watts. Et je vais vous expliquer quel genre de watts. Et donc, vous voyez, environ un cinquième sous forme d'électricité. Ça, c'est pas des watts heure, c'est des watts à l'année. C'est-à-dire, je branche, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire que moi ou vous consommez 1100 watts d'électricité? C'est comme si on avait un radiateur à la maison de 1100 watts, on l'allume et on le laisse allumer tout le temps. C'est ça la puissance électrique que nous consommons. Ceci dit, c'est pas ce que je consomme moi, vraiment, mais il faut, ou vous, mais il faut se rendre compte que dans cette consommation, il y a tout est compris. Il y a l'éclairage public, il y a les bureaux, les grandes surfaces, si vous voulez, qui ont été malheureusement construits et dessinés pour marcher à plein temps avec l'air conditionné et l'éclairage artificiel. Il y a les trains, il y a les tramways, il y a tout ce que vous voulez. Toute forme d'électricité. C'est pour ça que le chiffre est quand même assez lourd. Si on regarde, puisqu'il faudra qu'on parle de pénurie de pétrole, si on regarde qui utilise quoi, c'est très simple. Sans aller trop dans les détails, on peut dire un tiers dans les bâtiments domestiques et tertiaires, un tiers... les transports sont là, un tiers l'industrie. Le reste, c'est des peanuts. La sidérurgie et l'agriculture ne consomment pas beaucoup. C'est clair jusqu'ici? C'est pour dire, si on coupe le pétrole, qui va devoir faire des sacrifices? Eh bien, tout le monde, parce que vous voyez là, il y a les maisons, il y a les transports et il y a l'industrie. Ici, c'est la même chose, sauf que il y a l'évolution en fonction des années. Donc, on voit que les transports, évidemment, ont augmenté. Les résidentiels ont augmenté encore plus, alors que l'industrie, la sidérurgie et l'agriculture n'ont pas beaucoup augmenté leur demande. C'est la hauteur de cette bande que je compare. Donc là, ça fait presque une fois et demie, ou le double. Là, ça fait le double. Ceci ne vous concerne pas trop, mais si vous allez sur Internet, vous le trouverez. Si vous voulez savoir à quoi... Oh, papa, excusez-moi. Si vous voulez savoir à quoi correspond une tonne équivalent pétrole, ça correspond à 1000 mètres cubes de gaz, à une tonne et demie de charbon, à plusieurs stères de bois, et un tiers baril de pétrole. Il faut savoir que les Américains, ils mesurent tout un baril de pétrole. Et c'est assez curieux comme histoire. Quand ils ont découvert le pétrole, ils ont commencé à le vendre pour l'éclairage domestique. Le seul récipient qu'ils avaient à disposition, c'était les barils d'Aaron, vides, qui faisaient 159 litres. Et donc, ils ont commencé à vendre le pétrole en baril. Et depuis, c'est resté. Mais je vous dis, vous n'allez pas retenir ces quantités. Alors, je ne vais pas vous parler vraiment du nucléaire, puisqu'il y a une séance de prévue à l'avenir, mais j'ai besoin de ça pour expliquer quelques concepts. Celle-ci est une centrale, comme il y en a 59 en France, et bientôt 60. Une centrale qui produit tout le temps, pratiquement, sauf 2 mois d'arrêt par année, si vous voulez, 1 gigawatt électrique. Si on avait dit qu'un habitant français demande 1 kilowatt, ça veut dire qu'une centrale alimente 1 million de personnes. 1 million fois 1000, ça fait 1 milliard. Maintenant, pour avoir 1 milliard de watts électriques, il faut injecter dans la chaudière, si vous voulez, 3 milliards de watts thermiques. Pourquoi? Eh bien, c'est une loi physique, c'est-à-dire, c'est Carnot qui l'a d'ailleurs découverte. Si vous voulez avec de la chaleur, faire bouillir de l'eau ou n'importe quel autre liquide, et puis actionner une turbine, et puis avec cette turbine produire de l'électricité, le rendement est 30%. Et on n'y échappe pas. Ce qui veut dire que pour avoir un gigawatt électrique, là, je suis obligé de produire 3, ou de dépenser, si vous voulez, 3 gigawatts thermiques. C'est très important, nous le verrons tout à l'heure, parce que si sans ça, vous n'allez pas comprendre, quand vous regardez dans les journaux ou ailleurs, il y a des données tout à fait discordantes pour ce qui concerne la consommation en France. Ah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, sauf que dans ce genre de centrale, l'eau est à le maximum de température et le maximum de pression possible. On ne peut pas aller au-delà. Si on veut faire plus puissant ou plus chaud, il faut changer de liquide. La température en dessous de cette température, l'eau en dessous de cette température est plus liquide. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour faire marcher une centrale comme ça? C'est pour vous montrer l'étendue de la bêtise humaine. Il faut une recharge qui dure environ, si vous voulez, une année et demie. Cette recharge est constituée de 22 tonnes d'uranium enrichi, c'est-à-dire que l'uranium naturel, lui, il contient 99,7% d'uranium-238, qui ne brûle pas, si on peut dire, il n'est pas fissile, et il contient 0,7% d'uranium-235, qui lui est fissile, c'est-à-dire si on lui envoie un neutron, il casse en deux et il produit de la chaleur. Maintenant, si on utilise l'uranium naturel comme combustible de nos centrales, elles ne vont pas marcher. Il faut l'enrichir. Il faut l'enrichir au moins jusqu'à 3,5%. À ce moment-là, quand on met les pastilles dans la centrale, les réacteurs marchent. À la fin d'une période de fonctionnement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai brûlé environ une tonne d'uranium-235 et il me reste 22 tonnes de déchets radioactifs. Il y a 2 pays seulement au monde qui ont eu l'idée de recycler, parce que dans ces 22 tonnes, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, il y a encore 1% au moins d'uranium-235. Puis il y a tout l'uranium-238 qui avait au départ. Et puis il y a encore 1% de plutonium-239, qui est une altération de l'uranium-238, qui est fissile. Donc, au lieu de prendre 22 tonnes de matériel et puis les entasser quelque part, je peux recycler ça. Je retire mon uranium-238, le 235, le plutonium, et je recharge le réacteur. Et il me reste quelques dizaines de kilos, si vous voulez, de déchets qui sont vraiment inutilisables en tant que combustible, mais qui, si on les mettait dans un réacteur autre que ceci, c'est-à-dire un réacteur de 4e génération, seraient incinérables à 90%, si vous voulez. Or, quand les écologistes en Allemagne ont bloqué les trains qui amenaient les déchets nucléaires allemands à La Hague, puisque c'est là le seul endroit en Europe où on recycle l'uranium, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié par 100 les déchets radioactifs de l'Allemagne. Et maintenant, ils se les gardent chez eux. Ceci, j'ai trouvé aussi instructif comme graphique, ça permet de comprendre comment fonctionne EDF, c'est-à-dire comment fonctionne la fourniture d'électricité. Pour chaque jour de l'année, EDF dispose, en fait ce n'est pas EDF, c'est une société de distribution, hein, mais c'est égal. Il y a une courbe de consommation prévue pour ce jour-là. C'est sur Internet, vous pouvez regarder pour chaque jour, hein. Ça évolue en temps réel. Donc, la régie va se mettre en condition de produire quelque chose qui soit très près de la demande. C'est normal. Comment on peut faire ça? Est-ce qu'on peut le faire avec les centrales nucléaires? Non. Parce que les centrales nucléaires, si vous voulez, sont très difficiles à démarrer et on ne peut pas les moduler. Donc, on peut faire un fonds, si vous voulez, de production, mais on ne peut pas passer du simple au double comme ça. Est-ce qu'on peut les faire avec les éoliennes? Non, parce que les éoliennes, de toute façon, elles marchent quand elles veulent, hein, quand il y a du vent. Est-ce qu'on peut les faire avec des panneaux solaires? Non plus, parce qu'il faut qu'il y ait du soleil. Quand il y a une demande à l'imprévisible, EDF est obligé encore d'utiliser 10 à 15% de centrales thermiques. C'est le seul type de centrale, si vous voulez, au gaz par exemple, qu'on peut mettre vraiment en marche en une question de 10 ou 15 minutes. Les barrages, je me suis posé la question, apparemment ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils n'ont pas été conçus pour? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait envoyé du personnel? Je ne sais pas. Mais les barrages, on ne les utilise pas pour la modulation rapide. Modulation rapide, ça veut dire, je ne sais pas moi, il y a un orage et tout le monde allume, si vous voulez, l'éclairage ou le chauffage d'un coup. Hein. Alors, pendant qu'on y est, après on n'en parle plus, si une centrale nucléaire me produit 1 gigawatt électrique, je peux me demander comment je pourrais produire l'équivalent de cette puissance, ben, il faudrait 5000 éoliennes de 2 MW. Donc, c'est déjà de grandes éoliennes. Il en faudrait 5000. J'ai fait un saut en avant. Là, il y en a 300 d'éoliennes. En sachant la surface que prend une éolienne, c'est une fois et demie le territoire de Marseille. Pareil pour les panneaux solaires photovoltaïques. Et puis, il faut une dizaine de bonnes barrages hydroélectriques. Les pays qui ont arrêté l'installation, ou pire, arrêté carrément les centrales nucléaires, comme l'Italie, maintenant ils font du bouche à bouche avec des affiches s'ils veulent le gaz, et sinon ils pédalent. Hein. Alors, voilà un graphique. Ne regardez pas les quantités parce que c'est trop compliqué. Ça, c'est l'énergie qui rentre dans les pays, c'est-à-dire ce qu'on achète, qu'on fait venir, et ça, c'est l'énergie qui arrive à l'utilisateur. Si je prends le pétrole, bon, il y en a un peu qui va dans les navires, il y a des pertes, évidemment, les transports, les raffinements, etc., mais pratiquement le pétrole arrive à l'utilisateur. Pareil pour le gaz, bon, il y a des pertes, mais sinon il arrive à l'utilisateur. En revanche, quand on regarde l'uranium, Il y a le fameux facteur 3, c'est-à-dire pour donner tant d'électricité aux utilisateurs, je suis obligé d'acheter 3 fois, en termes d'énergie, si vous voulez, la quantité à fournir. Il y a 10% d'électricité qui est exportée, et c'est tout. Et le reste, ça c'est les pertes, hein, tout ce qui part en haut, c'est des pertes. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas du nucléaire, il faut qu'ils fassent ça avec du gaz ou du charbon, et ils jettent dans l'atmosphère les 2/3 de l'énergie produite dans la combustion. En bas, c'est les énergies renouvelables. Il y en a qui vont directement produire de l'électricité, il y en a qui arrivent directement, peut-être pour le chauffage domestique. Au passage, ça vous montre l'absurdité de l'utilisation d'une pompe à chaleur dans n'importe quel pays autre que la France et la Norvège. Pourquoi? En Norvège, l'électricité est produite essentiellement par de l'hydroélectrique et en France, on l'a dit, par le nucléaire. Donc, je peux prendre mon électricité. Une pompe à chaleur est considérée efficace quand je peux produire de la chaleur égal au triple de l'énergie électrique que je consomme. Maintenant, si je vais dans un autre pays, l'Allemagne ou l'Italie, pour faire l'électricité, j'ai brûlé 3 fois du gaz ou du charbon. Après, j'envoie l'électricité à l'utilisateur. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il met une pompe à chaleur, il récupère 3 fois l'énergie électrique. Donc, il a gagné rien du tout. Il aurait le meilleur temps de brûler son gaz directement pour chauffer sa maison. Alors, ça, c'est la partie introductive. Et on attaque le pétrole. D'où est-ce qu'il nous vient? De très, très loin. Dans des périodes où il y avait beaucoup de végétation et beaucoup d'animaux, si vous voulez, sur Terre, chose qu'on peut daté à peu près entre 40 et 200 millions d'années. Je vous explique, hein, parce que le texte est trop petit. Donc, sur le fond d'un lac, sur le fond d'une forêt ou sur le fond de la mer, il y a des dépôts organiques tout le temps, hein, que ce soit des végétaux ou des micro-organismes. Ces sédiments, avec des mouvements tectoniques, ils s'enfoncent en profondeur. Pas partout, hein, mais ils peuvent s'enfoncer en profondeur. En descendant, ils trouvent d'abord une augmentation de pression. Donc, la boue, si vous voulez, va devenir d'abord de l'argile et ensuite de la roche. De la roche poreuse, qu'on appelle roche mère, qui est imbibée de pétrole essentiellement, ou de résidus organiques, disons. Après, quand on arrive vraiment en profondeur, c'est-à-dire entre 1 à 3 km, non seulement la pression est élevée, mais aussi les températures sont très élevées. Donc, on a une usine chimique qui sépare, si vous voulez, qui transforme ces résidus organiques en pétrole et en gaz, un gaz naturel. Non seulement, mais une fois que cette transformation a eu lieu, à cause de la pression, les gaz naturels et le pétrole et l'eau remontent vers la surface. Si pendant la remontée, ils trouvent une couche rocheuse imperméable en forme de couvercle, elles vont former un gisement de pétrole. Et dans ce gisement de pétrole, le gaz, le pétrole et l'eau se stratifient, se divisent. Donc on trouve en bas l'eau, puis le pétrole et en haut le gaz. Donc quand on dit qu'on sait que c'est une énergie, une source d'énergie non renouvelable, vous voyez bien pourquoi. Quant à nous, nous avons utilisé pendant tout le 19e siècle essentiellement du charbon. Pendant le 20e siècle, non seulement de moins en moins de charbon et de plus en plus de pétrole et d'électricité, qui à l'époque, hein, disons au début, elle était produite par les barrages hydroélectriques. Et maintenant, on fait tout ou n'importe quoi. On verra. Donc, on compte vraiment pas, on compte pas l'essence, on compte pas les emballages, on compte pas le chauffage des gros bâtiments, rien du tout. Alors, quand on discute des pics de production, les gens, normalement, ils ne sont pas d'accord. Mais sur un point, ils sont tous d'accord, c'est-à-dire que la fin de ce siècle verra la fin du pétrole et du gaz naturel. Et à ce moment-là, si vous voulez, moi j'avais l'impression d'être assis par terre, je me disais, mais attendez, personne ne bouge, personne ne fait rien. Là, c'est Chevron, hein, donc c'est un producteur de pétrole qui avait dit à l'époque, le monde consomme 2 barils de pétrole pour chaque baril qu'on découvre. Et aujourd'hui, c'est 3 barils pour chaque baril qu'on découvre. Sous un autre aspect, voilà le pétrole que nous avons consommé. Voilà le pétrole qu'il nous reste à consommer. Donc, quand on arrive à un pic, il faut que ce soit clair, hein, quand on arrive au pic de production du pétrole, c'est pas qu'on a fini le pétrole, il en reste exactement la moitié. Nous arrivons à en avoir consommé de la moitié. Donc, il nous en reste presque autant que celui qu'on a consommé. Et ça, c'est ce qu'on peut éventuellement encore découvrir. Si on chiffre les réserves de pétrole, on les compare aujourd'hui avec celles qu'on connaissait en 1970, on voit que la quantité totale n'a pas varié. Ici, on avait la partie consommée. Ici, on avait les gisements à exploiter encore, qui ont beaucoup augmenté. Et en jaune vert, ce qu'on peut espérer encore découvrir. Donc, vous voyez que nous avons entamé sur cette partie-là. Celle-ci est la production de pétrole par zone, par continent, on peut dire. Ça, c'est tout le monde entier. Ça, c'est le Moyen-Orient. Et là, c'est l'ex-URSS. Ici, on est en pourcentage, hein, donc on n'est pas en valeur absolue. C'est pour juste vous montrer que une bonne partie du monde en dehors du Moyen-Orient ont déjà dépassé le pic de production. Ici, vous avez juste pour l'image les débits de gisements de pétrole. Il y a un retard à la mise en œuvre, ensuite ils débitent allègrement, et puis petit à petit, ils s'étalent. C'est pourquoi le pétrole ne va pas tomber d'un coup du jour au lendemain. On essaie d'y injecter des gaz sous pression, de l'eau chaude, de n'importe quoi, pour en faire sortir le maximum. Vous voyez que tous les gisements ne sont pas pareils, ni pour la quantité ni pour la qualité du pétrole, ni pour la partie qu'on arrive vraiment à sortir. Les réserves mondiales de pétrole, il faut aussi les discriminer en pétrole conventionnel, puis pétrole lourd, très lourd, et ça c'est des sables, des schistes, c'est-à-dire des espèces de roches qui sont un peu imbibées de pétrole, si vous voulez. Donc dans les réserves qu'on compte, il faut voir que pas tout est du pétrole facile à sortir comme celui qu'on avait jusqu'ici. Les réserves par zone, bon, c'est pas une surprise maintenant, c'est beaucoup au Moyen-Orient, et évidemment pas beaucoup en Europe ou en Amérique. Les Américains, ils ont consommé tout leur pétrole. Hein. Leur pic de pétrole a été en 1970. Seulement, il y avait la guerre froide, et ils ne voulaient pas que ça se sache pour des raisons stratégiques. Donc, ils ont continué à consommer comme avant. Et puis, ils ont fait un accord avec les pays du Moyen-Orient qu'on mentionnera tout à l'heure. Maintenant, c'est la même chose, mais en plus du pétrole qui est là, donc la partie en bleu, c'est les réserves prouvées. C'est-à-dire qu'on sait, si demain on a besoin, on va là, on le prend. Les réserves supposées, c'est là où on suppose qu'on puisse aller le trouver. Donc, le pétrole conventionnel, on a des réserves prouvées et on a des réserves espérées. Pour le pétrole non conventionnel, cette partie est beaucoup plus grande. On espère vraiment en trouver par-ci, par-là. Pour les gaz, en revanche, c'est pas très, très réjouissant. Et pour les charbons, alors, non seulement il y en a beaucoup, des réserves prouvées, mais on peut en trouver encore énormément. Maintenant, vous avez ici les réserves de pétrole par pays. Ce n'est pas une surprise, 65% sont au Moyen-Orient, un peu en Afrique, un peu en Amérique du Sud, rien du tout chez nous, pas beaucoup chez les Américains. À chaque fois dans ces graphiques, il y a un total, hein, là. On y revient tout à l'heure, mais c'est pas nécessaire de les retenir. Là, c'est le gaz. Donc, cette fois, il est encore au Moyen-Orient aussi, mais il y en a dans le Caucase. Alors, le gaz, par rapport au pétrole, il a un défaut, c'est-à-dire on le transporte beaucoup moins bien. Pour le transporter, par exemple, vers les États-Unis, il faut le liquéfier, il faut le mettre sur des navires, et à l'arrivée, il faut le gazifier. C'est cher, c'est compliqué, c'est dangereux, donc de préférence, le gaz, on l'utilise partout où on peut tirer des gazoducs. Les charbons, alors là, le topo change. Il y en a beaucoup en Amérique. Il y en a une bonne quantité en Europe, en particulier en Allemagne, en Pologne, etc. Et il y en a beaucoup en Russie et beaucoup en Chine aussi. Et c'est ça qui nous pose problème, nous allons le voir. Parce que si les Chinois continuent de brûler du charbon comme ils font maintenant, adieu le CO2. Hein. Ça, c'est l'uranium. C'est aussi un joli tour à disposition des Américains, parce que les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué l'accès à l'uranium australien et canadien aux Chinois. C'est-à-dire qu'ils ont... Les Chinois avaient commencé à acheter des participations dans des compagnies pétrolières. Les Américains les ont bloquées. Et alors, quand les Chinois se sont retournés vers l'uranium, ils ont trouvé que le marché était verrouillé. Je ne sais pas si les Russes auront envie de vendre de l'uranium aux Chinois, ça c'est une autre histoire. Quant à l'Afrique, bon, les Chinois essayent de faire des accords avec les pays qui en ont, mais ce n'est pas évident non plus. Alors maintenant, on a tout ramené ensemble, donc le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Mais c'est à peu près la même donnée que tout à l'heure. Et alors, on reprend notre camembert, où cette fois, en sachant qu'on consomme, admettons, 11 milliards de tonnes équivalent de pétrole par an, et en sachant que on consomme 40% de pétrole, 20% de gaz, 20% de charbon, on peut disséquer, si vous voulez, ces 11 milliards de tonnes équivalent de pétrole pour le pétrole, pour le gaz et pour le charbon. Consommation annuelle, cette fois. Et alors, on arrive finalement à un joli tableau où, ici, j'ai ramené les réserves, les ressources prouvées, si vous voulez. Ici, la consommation annuelle obtenue par la méthode de tout à l'heure, vous faites une simple division et vous obtenez les années qui restent à consommation constante. C'est-à-dire que dans la consommation, j'ai pris la consommation d'aujourd'hui, si pour un miracle, on pouvait continuer à consommer exactement les mêmes quantités, on aurait 33 ans de pétrole, 200 ans de charbon et 65 ans de gaz naturel. Mais il y a une autre surprise. L'uranium, il n'y en a pas pour toujours non plus. Celle-ci, c'est les années qu'on aurait si on avait été plus intelligent et on avait pensé à développer les réacteurs de quatrième génération, comme Superphénix, qui, eux, brûlent directement l'uranium 238. Ils n'ont pas besoin du quelques pourcents d'uranium 235. Maintenant, ceci est encore un cas théorique, parce que ça correspond, en cette fille, par exemple, là j'ai une consommation de pétrole ou des gaz, n'importe. Ça, c'est la consommation aujourd'hui. Je bloque tout et je dis, je continue à consommer la même quantité pendant les prochains 40 ans, par exemple. Alors, je n'ai qu'à dessiner un rectangle où la surface équivaut aux réserves que j'ai. Mais les choses, évidemment, ne vont pas se passer comme ça. C'est théorique. On avait dit, si par hasard, on pouvait congeler la consommation à l'état d'aujourd'hui. En réalité, elle va en augmentant, et puis elle ira en diminuant. Donc, on aura un pic d'extraction, c'est-à-dire de production, hein, cette fois, qu'on mettait prudentiellement entre 2005 et 2010, je vous montrerai exactement où il est. Pour les gaz naturels, on a dit un peu plus tard, pour le charbon en 2030 et pour l'uranium, c'est fonction de ce qu'on en fera. Alors, voilà le pic de production du pétrole, il est déjà passé, en 2005. Ici, vous avez les exportations de pétrole de 20 plus grands pays producteurs. Vous voyez que, en dépit de et ici, vous avez les prix pendant ce temps. Vous savez que les prix ont fait une augmentation pas fantastique, spectaculaire ces dernières années. En dépit de l'augmentation du prix et en dépit des recherches effrénées qu'on a mis en œuvre, la production n'augmente plus. Les fameux pics. Maintenant, si on veut faire du futurisme, il faut envisager quelque chose dans ce genre. Pour le pétrole, pour les gaz naturels, pour les charbons aussi, pour l'hydroélectrique, parce qu'à un moment donné, il fera trop chaud, il y aura des rivières qui ne donneront plus, des glaciers qui ne donneront plus. Et quant aux énergies renouvelables, elles vont augmenter le mieux qu'on peut, mais à un moment donné, on aura peut-être plus assez d'énergie d'autres gens pour continuer à produire ce qu'il faut pour avoir une augmentation continue d'énergie renouvelable. Mais là, on est carrément de nouveau dans les prédictions. Les discours un peu tristes concernent le nucléaire, parce que moi j'espérais beaucoup dans le nucléaire. Voilà la bêtise qu'on a fait. Il y a 440 réacteurs dans le monde. Ils sont en bonne partie assez vieux. 40 ans, c'est la limite d'âge de fonctionnement pour un réacteur nucléaire. En France, à force d'entretien et d'innovation, on a prolongé à 60 ans. Ce qui veut dire que dans les prochains 20 ans, on va être obligé d'arrêter environ 300 réacteurs. Et dans la même période, on n'arriverait pas à en construire plus qu'une soixantaine. On n'est pas capable. En plus, si vous voulez, encore faut-il, dans les différents pays, vaincre l'opposition très répandue au nucléaire. C'est pas en Italie, pour construire un réacteur, pour se remettre à construire un réacteur, ça discute depuis un an maintenant. Donc, en 2030, il va nous manquer 240 réacteurs mathématiques. Pas en France, hein. Là, on parle du monde. Mais c'est pour dire que le nucléaire ne va pas augmenter indéfiniment non plus. Alors, tout ça, on le ramène ensemble maintenant. Il y a tout, comme je ne vois pas les couleurs, disons, mais il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a le charbon, pardon, il y a le gaz, il y a les énergies renouvelables sont là, l'hydroélectrique en bleu, etc. Mais on les voit mieux ici, parce que là, on les a de nouveau superposés. Donc voilà, le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire, l'hydroélectrique et les énergies renouvelables. Vous voyez que on va descendre à quelque chose qui est de l'ordre d'un cinquième de ce qu'on consomme maintenant, et peut-être un sixième ou un septième de ce du pic. Donc, parce qu'il y aura un pic de consommation. La consommation va continuer à augmenter, puisque les gens ne veulent pas entendre raison. La consommation globale va augmenter jusqu'à encore pendant 20 ans, par exemple. Et plus brutale sera la chute. Maintenant, il y en a qui ont fait un autre raisonnement. Ils ont dit, ah, mais si nous, on est 6 milliards, et puis on a dit qu'on serait peut-être 9 ou 10 milliards, c'est parce qu'on pensait qu'on disposerait de la même énergie, des mêmes ressources d'énergie par personne qu'on a maintenant. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer de tous ces milliards de gens? Et je ne veux pas rentrer là-dedans. Pour ce qui concerne la France, on peut faire une petite prévision, encore. Ça, c'est les énergies fossiles. Les énergies renouvelables, en particulier si on les utilise pour chauffer les maisons. L'électricité. Maintenant, en 2050, on aura beaucoup moins de pétrole, on aura plus d'énergie renouvelable, on aura plus d'électricité, et ça, c'est des négatifs. Alors, le négatif, c'est de temps équivalent pétrole négatif, c'est-à-dire de temps équivalent pétrole qu'on ne pourra pas consommer. On va être obligé de réduire notre consommation globale. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait du pétrole? En ce moment, bon, on fait de l'essence, on fait du gazole, enfin du gasoil, on fait de la pétrochimie, on fait des routes, hein, du goudron, des lubrifiants, etc. À la pétrochimie, on y revient. Donc, quand on dit moins de pétrole, il va falloir faire moins de tout ça. Sauf pour la chimie, on peut faire de la chimie avec la cellulose. Hein. Tout aussi bien, il suffit de s'y mettre. C'est que maintenant, il est tellement pas cher que personne ne cherche à faire différemment. Alors, ici, c'est tous les produits, si vous voulez, et j'en oublie certainement, qui sont obtenus à partir du pétrole. Tous les objets, tous les plastiques, les engrais, les moquettes, les bateaux, les rouges à lèvres, etc., etc. Alors, la conclusion est un peu triste. Mais en somme, ce n'est pas le fait d'ignorer les choses qu'on les fait changer, qui les fait changer. On ne pourra pas remplacer le pétrole. C'est pas la peine de se pavaner, de se pavaner avec les éoliennes, les maisons solaires, tout ce qu'on veut. On ne pourra pas. Évidemment qu'on produira du pétrole. Par exemple, l'Allemagne a fait toute la deuxième guerre en transformant du charbon en pétrole. On peut le faire. On peut faire du biodiesel, on peut faire de l'éthanol, donc de la bioessence, mais on n'arrivera pas à produire la quantité démesurée, si vous voulez, qu'on utilise maintenant. Et, probablement, il va falloir revoir aussi notre façon de vivre et de nous rendre, de faire des grands déplacements pour aller sur le lieu de travail. La nuit dans tout ça, c'est que changer d'habitude, c'est un processus qui demande au moins 20 ans. Au bas mot, hein, vous voyez un peu changer de ville ou se remettre au vélo moteur ou à la bicyclette, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Mais il fallait commencer il y a 20 ans. Alors voilà notre vie quotidienne. Là, j'étais dans un supermarché à Ferney-Voltaire, donc à côté de Genève. Ça, c'est un rayon de yaourts. Que de yaourts, il y en a encore à côté. Et ça, alors là, quand je photographiais l'eau minérale, il y a tout de suite quelqu'un qui est arrivé et dit, qu'est-ce que vous faites? Je le constate de San Pellegrino et je veux savoir combien ça coûte. Donc, là, c'est de l'eau du parc italienne, maintenant de propriété Nestlé, qui est transporté sur une moyenne de 800-1200 km pour arriver à l'utilisateur et qui, tout compte fait, coûte une fois et demie de pétrole. Et c'est de l'eau de source avec un peu de CO2 dedans. Et évidemment, du pétrole dans le plastique. Pour faire un kilo et demi de plastique, il faut un kilo de pétrole. Alors, que faire? Je vous laisse lire. On parlera tout de suite du charbon. Ceux qui ont du charbon vont utiliser du charbon. C'est ça les problèmes. Et les autres se démènent comme ils veulent, comme ils peuvent. Alors, je peux continuer? Le charbon, chez nous, on l'a vu en France et même en Europe, il est presque négligeable du point de vue consommation. Mais si vous allez en Chine, 3/4 de l'électricité sont produits par le charbon et 66% de l'énergie, parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de nucléaire, etc. Et la consommation de charbon augmente plus vite que celle d'autres sources d'énergie fossiles. Et ça va sans dire que le charbon produit beaucoup plus de CO2 que du pétrole ou du gaz. Voilà les projets. Donc, dans les années écoulées en Chine, on a construit 7 centrales au charbon par semaine. Et ce sont de très mauvaises, c'est-à-dire qu'ils n'y vont pas avec une technologie sophistiquée. Hein. Ils brûlent et vont à la galère. Mais l'Allemagne, qui a arrêté les réacteurs, qui a arrêté les nucléaires, qui a implanté beaucoup d'éoliennes, qui a beaucoup misé aussi sur les panneaux photovoltaïques, ils ont 24 centrales au charbon en projet. Alors, moi je demande aux écologistes où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils continuent de pester contre ceci et cela, contre le nouveau barrage, contre les centrales nucléaires, etc., et ils ne voient pas la grosse perche qui nous arrive dessus. Voilà la consommation de charbon dans le monde. On a dit où il est. Hein. Et ça, c'est le piège à coulant. Autrement dit, ça s'appelle séquestration et stockage SSC, séquestration et stockage du CO2. Parce que pour justifier la construction d'une nouvelle centrale au charbon, on dit, mais on va séquestrer le CO2. Oui, ben on va le séquestrer, c'est très bien. Et on va le mettre où? Dans des cavernes de sel, dans des gisements de gaz ou de pétrole qu'on n'utilise plus. Sinon, on va envoyer des glaçons au fond de la mer ou alors les pomper au fond de l'océan. Encore faut-il que les océans aiment voir tout d'un coup tout ce CO2 qui arrive par là. Mais en plus, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que c'est un procédé qui est extrêmement difficile et cher et qui n'a jamais été essayé encore. Et puis on vous bassine toujours avec les chiffres. Par exemple, en France, on vous dira, ah, on est en train de faire une installation pilote qui va, comme ceci, qui va séquestrer 150 000 tonnes de CO2 par an. Mais la production de CO2 en France, elle est de 150 millions de tonnes. Elle n'est pas de 150 000 tonnes. Donc, il en faudra des cavernes. Quant au CO2, évidemment, il y aura un maximum dans les émissions. Quand, je ne sais pas trop. Combien, je ne sais pas trop non plus. Il y aura une augmentation de température. Et cette augmentation de température en correspondance du pic n'est pas l'augmentation définitive parce qu'il y a un effet d'inertie qui est très très long. Parlons maintenant du prix du pétrole. D'abord, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des hauts et des bas, comme pour la bourse. Ça va en temps de scie, mais la tendance est à l'augmentation. Là, c'est le gaz. Et là, c'est le pétrole. La tendance est à l'augmentation. Alors, le bon sens voudrait qu'on commence à en consommer un peu moins. Par exemple, si chaque voiture en France pouvait faire les 50 premiers kilomètres de la journée en électrique, on couperait en deux la consommation d'essence et de gasoil. Parce que, en moyenne, les gens font 100 km, si vous voulez, pour aller au boulot et revenir. Donc, si vous en faites la moitié en électrique, vous en consommez la moitié. Ah, mais dire, mais, et où est la voiture électrique? Et où est la voiture à l'hydrogène? Vous pouvez toujours rêver. Mais une voiture qui fait ça, elle existe depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Elle fait exactement ça, c'est-à-dire elle fait la moitié du chemin, en particulier en ville et dans les bouchons, elle marche à l'électricité. Mais, allez essayer d'en acheter une, en Suisse, elle est hors des prix. En Belgique, elle coûte pas cher, en plus l'État donne 5 ou 6 000 euros de contribution. Je parle de la Toyota hybride pour pas faire des noms. Est-ce qu'un fabricant européen ou un fabricant américain aurait simplement rêver de faire la même chose? On fait des 4x4. Et après, quand ça va mal, on demande l'aide du gouvernement. Quand l'essence a augmenté d'un coup, les gens se sont révoltés en disant, mais en somme, on nous fait payer 60% d'impôts sur un litre d'essence, ce serait quand même le moment de plafonner les impôts au moins. Ouais. Mais moi je dis, si en diminuant les impôts, on fait croire aux gens que le problème n'existe pas, que c'est un problème transitoire comme ça, ça ne fait qu'encourager, si vous voulez, à continuer de la même façon. Et ce serait uniquement remettre le problème. Voilà ce qu'on paye en impôt sur l'essence d'un différent pays. Bon, la France n'est pas très bien doti, il n'y a que l'Angleterre donc qui soit plus cher, mais c'est juste pour le folklore, ça ne change rien à ce qu'on est en train de discuter. Maintenant, est-ce qu'il y a de la spéculation sur le pétrole? Bien sûr, il y a de la spéculation. Les Américains ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour semer la pagaille. D'abord, ils ont fondé une bourse. ICF Futures a fondé une bourse à New York et puis une filiale à Londres et tout le pétrole du monde se négocie là ou là, avec deux petites exceptions que je vais vous mentionner. Donc, quand les gens ont vu venir, je ne dis pas la crise du pétrole, mais ils ont vu venir l'augmentation de la demande, ils ont commencé à spéculer sur le pétrole comme on spécule sur des titres en bourse. C'est-à-dire que, je fais un saut en avant, là, avec des futures, vous investissez 8 dollars et vous achetez 120 dollars de pétrole à terme. Donc, c'est devenu un objet de spéculation. Qui plus est, il y a des exceptions à ça, mais uniquement pour des sociétés américaines, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé en 1971? Les États-Unis produisaient beaucoup de pétrole. Pour des raisons X, Y, ils ne voulaient pas importer des pays arabes. Les pays arabes, en revanche, avaient envie de vendre leur pétrole aux Américains, parce que c'était les pays riches qui consommaient beaucoup, etc. Et ils ont passé un accord. L'accord prévoyait que le pétrole se négocierait exclusivement en dollars sur les marchés internationaux. Depuis cette date, les Américains ont supprimé l'équivalence dollar-or et ils continuent chaque année d'imprimer des billets verts pour la moitié de leur déficit commercial. C'est-à-dire que ces dollars, n'importe quel pays au monde qui veut acheter du pétrole, il est obligé d'abord de se procurer des dollars. Et les Américains savent pertinemment que ces dollars ne reviendront pas. Donc, ils impriment et ils ne sont pas de se faire motiver à réduire leur déficit commercial qui est énorme et qui nous met dans des problèmes. Maintenant, si cela ne suffisait pas, en 2000, la société Enron, qui a fait faillite après, a obtenu de pouvoir négocier du pétrole hors bourse, c'est-à-dire en traitant en dessous de table, si on peut dire, et en 2006, les spéculations sur le pétrole depuis 2006 ne sont plus soumises au contrôle de la commission qui doit surveiller que les choses se passent convenablement. Administration Bush. Donc voilà la raison de tous les... Et je dirais même, quand on regarde le nom des sociétés qui sont là-dedans, on retrouve de celles dont on a beaucoup parlé lors des récentes faillites. Si cela ne suffisait pas, la même bourse indexe les prix des autres matières premières sur le prix du pétrole. Vous avez là le prix du pétrole, les prix de l'alimentaire en jaune et les prix de métaux, de tous les métaux, en bleu, je crois. Non. Alors, en bleu, c'est le pétrole. En noir, c'est les métaux. Et en jaune, c'est l'alimentaire. Le bleu, le riz, etc. Et donc, après, on s'étonne que ça augmente. Maintenant, les risques politiques. Voilà les dépenses, la dette américaine. Ces 50 dernières années, si vous voulez. Ils en sont à 10 000 milliards de dollars, c'est-à-dire à environ 150 000 dollars par famille. Voici les dépenses militaires des États-Unis, des autres pays de l'OTAN, de la Russie, de la Chine et des soi-disant États voyous. Dans une autre forme, on a ici un graphique de l'augmentation des dépenses militaires de la Chine pendant ces dernières années. On verra aussi les raisons. Mais si on voulait, là on en est à 60 milliards de dollars, mais les États-Unis en sont à 600 presque. Donc il faudrait aller... Qu'est-ce qu'ils font les Américains? Entre autres, ils gardent des flottes Oui, ça c'est le couloir du pétrole. Hein. Et sur chaque chemin, les Américains, à la sortie de la mer Rouge, par là, les Américains ont une flotte. Imaginez comment doivent se sentir rassurés les Chinois, en sachant que pour un oui, pour un non, les autres vont leur bloquer l'arrivée du pétrole. Et je vous rappelle que la Deuxième Guerre mondiale entre l'Amérique et le Japon a éclaté quand les États-Unis ont décrété l'embargo pétrolier au Japon. Alors, puisqu'on est en termes de guerre, on termine. Voilà les grands pays qui pourraient déclencher des guerres pour le pétrole. Ce n'est pas surprenant, hein, parce que le pétrole, pour le moment, est quelque chose de vital. C'est comme si on vous enlevait le pain. Quand un pays se voit étouffé, étranglé, il va réagir militairement. Et ici, nous avons les réserves en pétrole, en jaune, et la consommation en couleur quelconque, pour l'Europe, les États-Unis, la Chine et la Russie. Vous voyez, la Chine ne peut pas faire les guerres, pas beaucoup plus les États-Unis. Quant à l'Europe, bon, l'Europe, je pense que ce n'est pas d'avoir un pays tout seul qui déclenche une guerre comme ça. Donc, finalement, quand on s'étonne des nouvelles prises de position de Poutine, vous voyez que la Russie, qui était allée au plus bas avec la chute du régime communiste, se retrouve maintenant, du point de vue des ressources énergétiques, dans une position très très confortable.